Eh bien, on est à peu près tous réunis pour cette nouvelle séance qui va tourner autour de Stalker, d'Andrei Tarkovski. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que s'il n'y avait pas le fil conducteur que tu nous offres, c'est assez improbable d'imaginer un festival ou un ensemble de films présentés de façon cohérente où on voit mon oncle de Jacques Tati et pas le coup d'après mais le coup suivant, Stalker de Tarkovski. Donc sans doute qu'une des questions intéressantes qu'il faudra se poser, c'est de savoir si malgré tout les films où tu trouves que l'usage du son est particulièrement intéressant et donne matière à une réflexion sont des films qui bien qu'ils se situent dans des régions du cinéma apparemment fort différentes, et l'humour de Tati est d'une certaine façon le côté un peu plus emphatique, disons, de Tarkovski, ne sont pas théoriquement de la même famille, ce que, à travers l'usage du son, il peut y avoir comme parenté entre les deux. Ça serait assez intéressant, finalement, et c'est peut-être un peu les questions de la fin qu'on pourrait te poser ou se poser. Et évidemment, j'ai saisi le terme question pour rappeler que, pour comprendre un petit peu mieux toutes ces choses ou pour aller un peu plus loin avec l'ami Daniel Dehé, il y a son ouvrage qui s'appelle justement 50 questions pour une écriture du son. Est-ce que c'était 50 questions que vous n'avez jamais osé poser?
Non, ça c'est la 51e qui va sortir bientôt.
Bon, alors la 51e, ce sera au début de l'année prochaine.
Alors, il y a un livre suivant, oui, qui va être 50 questions à propos du cinéma, donc je ne sais pas encore le titre, mais qui sera dans la même lignée que le précédent et qui sortira, je pense, en janvier, si j'arrive à le finir. Voilà.
Alors, de toute façon, en attendant, vous ne comprendrez pas bien le prochain si vous n'avez pas déjà lu les 50 questions en question qui sont tout à fait passionnantes, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Daniel.
Bonsoir. Alors, oui, Tarkovski, c'est un trajet. On est passé par Van der Kuyken. Donc, on est passé de la fiction au documentaire, puis à nouveau à la fiction. Donc, je voudrais rappeler un peu l'idée qui est derrière cette programmation. Ce serait d'avoir un regard qui se situerait plutôt du côté du sonore, c'est-à-dire de sortir à travers l'histoire du cinéma un certain nombre de formes singulières dans leur construction sonore. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement les cinéastes, dans chaque œuvre, chaque cinéaste dans sa propre œuvre ne fait pas toujours des films sur lesquels ils construisent, enfin, de manière puissante la bande son. Curieusement, beaucoup de cinéastes font ça sur un film ou deux films. C'est le cas de ce que l'on va voir la fois prochaine dans un mois, qui sera le film d'Alain Cavalier, Liberamé. Cavalier a fait un travail sonore tout à fait pertinent sur ce film-là et sur Thérèse, le film qu'il avait fait précédemment. Mais le reste de son œuvre, finalement, ne s'occupe pas tellement de questionner le travail sonore par rapport à l'image. Alors, là encore, le questionnement que j'essaye d'amener, ça serait finalement d'avoir une approche qui ne serait pas du côté universitaire, d'une analyse filmique, etc., mais finalement de révéler des outils pour construire le cinéma. Moi, je suis un praticien, je ne suis pas du tout un universitaire. Et donc, l'approche que j'essaye de faire, c'est du côté du comment faire. Comment faire avec le son, comment faire travailler le cinéma par le son. L'idée générale que j'essaye de développer, c'est la question de l'évacuation, ce que j'appelle l'évacuation, qui serait finalement basée sur le fait que, dont je vous parlais à la première séance, que ce que prend le microphone ne représente pas notre écoute. Et lorsqu'on fait une prise de son, on a beaucoup trop d'informations qui rentrent dans le micro et qui sont des choses que l'on n'entend pas normalement, nous, lorsque nous sommes dans la même situation que le microphone. Hein, le micro prend tout ce qui existe, alors que notre écoute n'est pas du tout construite de cette façon. Nous ne cessons de trier dans la scène sonore qui est face à nous et d'évacuer la plus grande partie de ce qui s'y trouve pour aller écouter strictement ce que l'on désire entendre. Et c'est absolument fondamental. Nous avons une écoute désirante d'abord, c'est-à-dire nous sommes avant tout des êtres qui avons des choix face aux situations dans lesquelles nous sommes. Et la deuxième chose, c'est que à l'encontre de cette écoute désirante, une autre écoute vient s'ajouter à celle-là, qui est une écoute de protection, c'est-à-dire que tous les éléments qui surgissent dans la scène sonore qui nous entoure, dans le réel, hein, chaque élément qui surgit est instantanément capté, surveillé, analysé, puis abandonné si elle ne présente pas de danger, mais c'est avant tout une écoute de protection. On a besoin de cette écoute pour continuer à être vivant. Donc il y a ces deux écoutes qui sans cesse sont en œuvre et qui sont liées, bien sûr, qui sont liées puisque nous allons aller sans cesse sur toutes les émergences, nous allons aller les analyser, les comprendre avant de les abandonner. Donc, si on regarde cette écoute-là, finalement, elle ne correspond pas du tout à ce que prend un microphone qui nous donne une énorme masse sonore non triée, hein, qui est prise en fonction des pressions qui arrivent au micro. Donc, tout ce qui est là, dans l'espace, a la même valeur. Voilà, le micro, il reçoit toutes les pressions et il ne trie pas, il n'a pas de cerveau derrière la membrane. Le problème est, bien sûr, que lorsque l'on enregistre avec ce microphone et que l'on veut refaire ce travail de tri à la réécoute, on ne peut pas le faire. Donc, parce que les choses sont déjà mélangées et nous n'avons plus les moyens de différence de temps et d'espace et d'intensité, de temps et d'intensité qui nous permet de faire le tri comme dans le réel. Donc, lorsqu'on place un microphone devant un cadre qui prend une image, on ne va pas obtenir ce que l'on écoute, hein, c'est ce que vous le savez quand vous prenez des images avec votre caméra vidéo, on n'obtient pas ce que l'on écoute, mais on obtient ce que le micro entend, ce qui n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'on est toujours déçu du résultat. Il y a trop de choses, c'est brouillon, rien n'est choisi, rien n'est désigné, alors que pendant que vous avez fait ces images, vous avez bien, vous, entendu des détails, et vous n'avez entendu que ces détails, et vous en avez joui vraiment. Donc, la question se pose fondamentalement, comment faire ? Comment faire ? Et effectivement, le microphone a un apport trop important et a une incapacité de désigner les choses, alors que la caméra, évidemment, cadre. Nous ne cadrons pas. La caméra fait le point. Nous ne faisons pas le point. Hein, donc, on a avec l'image une possibilité de localiser, de trier dans la scène qui se trouve devant nous, alors qu'avec le micro, il va falloir aller le déplacer, le déporter, etc., mais on perdra le reste. On a sans arrêt des choix à faire très importants. D'où la post-production. C'est-à-dire qu'on va reprendre tous les éléments qui seraient nécessaires de placer devant, avec ces images et reconstruire un sonore pour cette image. Alors, évidemment, cette reconstruction, on pourrait dire, mais c'est que du faux, bien sûr, il n'y a que du faux et le sonore n'est que du faux. Et nous travaillons justement sur la tricherie et sur justement cet écart entre ce que l'on voit et ce que, à la vue, notre cerveau suppose entendre et ce qui va être donné à entendre. Et Tarkovsky travaille énormément là-dessus. J'ai relevé d'ailleurs une phrase assez belle. Voilà. Il dit « Je sens qu'il doit y avoir d'autres possibilités de travail avec le son qui permettraient d'être plus précis, plus fidèles au monde intérieur que nous essayons de recréer à l'écran. Il suffit d'enlever les sons réels du monde qui est représenté à l'écran et les remplacer par des sons étrangers, ou encore de les distordre et qu'il n'ait plus de rapport direct avec l'image pour que le film se mette à sonner, à trouver une résonance. » Donc c'est clair, hein. Lui, d'emblée, il se place du côté de la refabrication, de la reconstruction, la distorsion, la perte. Hein. Vraiment, on ne va pas redoubler l'effet de réel qui est donné par l'image, mais au contraire, fabriquer un autre objet qui va travailler autrement. Alors, les espaces de représentation du son ne sont pas du tout les espaces de représentation de l'image. Je vous disais l'image cadre, l'image fait le point, etc., décide des profondeurs de champ. Au son, nous plaçons, quand on place un micro, un objet qui nous donne à entendre le monde qui l'entoure à partir d'un point qui est un centre dans un espace. Et de ce centre, la perception, si vous voulez, va jusqu'à l'infini. Jusqu'au bruit de fond, jusqu'à la perte. Donc, le travail du sonore se situe justement entre, dans un rapport de proximité ou d'éloignement, et non pas de cadrage. On va être soit dans un accolement, et là, on va voir ça, notamment avec les voix. On est dans une proximité des corps, corps sonores ou corps humain parlant, où on les perd. Ce film se construit justement dans cet écart-là. Vous allez voir que toutes les voix qui sont enregistrées et qui figurent dans ce film sont des voix qui sont données à entendre en grande proximité, et même dans des halètements. On est tout le temps dans quelque chose qui est de l'essoufflement. On est dans les souffles. Comme s'il y avait urgence, angoisse, enfin quelque chose qui est de l'ordre d'une course, d'une quête, et en même temps d'un danger. Et effectivement, Stalker, c'est ça, c'est celui qui traque, hein, qui poursuit. Il y a cette idée-là dans le mot Stalker. On a ces voix qui sont pourtant des voix de post-production, des voix qui ne sont pas faites en direct, il n'y a pas de voix directe. Toutes ces voix sont refabriquées, bien sûr, en audi, mais elles sont gardées dans une proximité qui est constante, pratiquement. On est toujours dans le même rapport. Et c'est un rapport, finalement, d'une parole qui est presque d'une seule parole. C'est presque la parole de l'auteur, et qui est redistribuée dans toutes les voix. Mais on est pratiquement dans une seule parole. On n'a pas, même si on a des timbres, il y a simplement une redistribution des places, une redistribution des points de vue. C'est tour à tour le point de vue du scientifique, ou c'est tour à tour le point de vue de l'écrivain, etc. On déplace l'axe de réflexion. Mais c'est toujours, en fait, cette même parole. Et puis, au-delà de ces corps et de cette parole qui est post-produite, il y a des éléments qui se situent dans différents étagements par rapport à ces corps, et notamment au lointain. Et le film se constitue comme une espèce de... Alors vraiment, quand il parle de zone, c'est vraiment dans le plein sens du terme, comme une espèce de couronne, une couronne autour duquel il n'y a rien, et puis au loin, très loin, est déporté de l'activité. Et cette activité nous arrive par des sirènes de train, des sirènes de bateau, hein, des choses comme ça. Ça travaille là-bas. Mais là, nous sommes dans l'endroit de la réflexion, nous sommes dans l'endroit déplacé, décalé, nous avons traversé la frontière, puisque tout ce film se constitue dans ce passage. Hein, c'est un film qui travaille justement sur la question du passage d'un seuil, et d'un seuil qui est extrêmement étendu. Et on va voir la durée du voyage, la durée de la transition entre un monde et puis l'autre monde. C'est un monde de la quête, c'est un monde de la réflexion, c'est un monde du retour vers soi, c'est un monde de l'interrogation, et qui trouve un deuxième centre à l'intérieur de la zone, qui est une chambre de l'interrogation, une chambre où on va faire des demandes, où on va poser des questions, hein, une chambre où on va donner son désir, produire son désir, et peut-être obtenir quelque chose. Alors, on va voir comment il traite cette question. Alors, ce que je voudrais peut-être très vite, c'est vous montrer la complexité et la qualité de son travail. Le tout début du film commence avec une scène qui fait travailler le sonore dans une passivité des corps et des matériaux. D'habitude, dans le cinéma, lorsqu'il y a du son, c'est toujours le son d'un objet qui se déplace ou d'un corps qui se déplace. Il n'y a de son que de déplacement ou de choc. Hein, ça n'est que ça, les sons. Donc, dans un cadre, ce qui est le son de ce cadre, c'est tout ce qui bouge. Et ce qui ne bouge pas ne fait pas de son. Ou bien c'est le hors-champ. Ce qui est censé entrer, ou ce qui vient juste de sortir. Là, on démarre sur un plan avec une subjectivité, une pénétration dans une chambre à coucher, pour aller sur une tablette sur laquelle est posé un verre. Donc c'est un travelling avant. Puis on a un travelling latéral. Le verre bouge et c'est une indication indicielle, c'est l'arrivée d'un train et donc c'est les vibrations. On n'entend pas encore le train, mais les vibrations font bouger le verre et le font se déplacer. On retrouvera cette scène à la toute fin du film et qui fonctionne d'une autre façon et pour d'autres raisons. Puis on a un travelling latéral qui passe tour à tour sur les visages des personnages qui sont au lit, qui sont la femme, la fille et le mari, le stalker. Sur ce travelling, on va entendre un passage de train. Ce passage de train est décomposé en plusieurs parties. On a d'abord un son qui semble venir de l'extérieur. Puis, lorsqu'on arrive sur le stalker, on passe sur une sorte de ralentissement de ce son qui est comme une intériorité du train. C'est comme si on passait d'une vision externe du train comme si on était projeté à l'intérieur de celui-là. Et en même temps, est mixé à l'intérieur de ce train une musique, et ça on retrouvera ça tout du long du film, on a des espèces de musique emblématique. Là, en l'occurrence, c'est un tout petit bout de la Marseillaise. On retrouvera d'autres choses. On trouvera Wagner, on trouvera d'autres choses plus loin dans le film. Là, ça commence par une espèce de signe comme ça de liberté. Et puis, on revient sur l'enfant, puis la femme, et là, on repasse à l'extérieur du train. Et ensuite, on revient sur le verre qui finit de vibrer et on repart à l'extérieur. On va juste regarder ce plan. Il est assez étonnant. Vous allez voir cette espèce de qualité de construction. Alors que rien ne bouge dans l'image, le sonore fait le travail. Je vous l'indique parce que il faut indiquer les choses du son, parce que sinon on ne les entend jamais. Si vous voulez bien, on va passer le premier extrait. C'est pas très long. Une petite chose. Donc c'est le tout début du film, puis on s'arrêtera pour passer à la deuxième partie qui est là. Donc c'est un film fait en Russie, hein, c'est un film qui est en fait un film qui a été refait toute la pellicule qui avait été tournée a été perdue. Toute la pellicule a été perdue. Elle a été perdue parce qu'elle a été gardée trop longtemps dans les boîtes avant de les développer. Et donc, il a fallu qu'il retourne complètement le film. C'est une drôle d'histoire qui lui est arrivée. À cette époque, il avait beaucoup d'ennemis en Russie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les pas ne sont pas marqués. Il faudrait le revoir pour pouvoir se rendre compte de ça. C'est-à-dire que la présence des corps, du corps du Salker, est une espèce de matérialité, de grincement, de frottement. Il y a quelque chose qui n'a pas d'existence d'ancrage au sol. Et ce personnage est une sorte de personnage comme ça, de volant, quoi. On va voir comment ce trajet se fait, cette traversée se fait. Voilà, il n'a jamais le poids de ses chaussures, jamais. Donc vous voyez à quel point là, on est déjà dans un système d'évacuation. On est dans le silence, on commence par le silence, le film commence. C'est vraiment, on n'a plus l'habitude de trouver des films qui commencent comme ça, à partir de rien. Et la chose se constitue sur, non pas le son, mais la résultante du son, la conséquence. C'est-à-dire que d'habitude, le son est déjà la conséquence d'un événement. Et bien là, c'est même pas le son comme conséquence, c'est le tremblement du verre comme conséquence d'un son qui est inaudible. Quoi. On en est déjà au deuxième degré. Il nous place à cet endroit dans quelque chose qui est du surnaturel. On est déjà, avec Tarkovsky, alors on va être servi, dans une espèce de métaphysique. On est là, il y a une espèce de transcendance et on va la voir tout du long. Et on va voir comment il l'exprime, parce que c'est par les objets, c'est par le son, c'est par la façon dont les espaces répondent, c'est la façon dont les acoustiques répondent. On va le voir avec les réverbérations qui ne répondent pas ou qui répondent différemment dans un même espace. On va voir ça tout à l'heure. Il y a le monde réel nous donne des signes de quelque chose qui serait par-delà le réel. On va regarder la suite. Alors la suite, c'est... J'ai retiré une petite partie, je vous en dis deux mots. Le stalker va au café et retrouve deux clients qu'il doit emmener dans la zone. Et ces deux clients sont un scientifique et l'autre un écrivain. Et donc, à partir de ce café, ils vont partir et essayer de pénétrer cette zone interdite. Ce que je voudrais que vous écoutiez dans cette partie, c'est comment est construit ce trajet, cette traversée. Il y a là une construction sur les énergies, sur des énergies qui progressent par petits bonds. On part d'un départ en Land Rover. Et vous allez voir que la voiture s'arrête et à chaque fois qu'un événement, un acte est fait, on repasse au silence. Et puis, ça repart. Et puis, une moto passe, s'arrête, surveille. À nouveau, on repasse au silence. Et à chaque fois, il y a un silence. À chaque fois, il y a une épreuve à franchir. Il y a une multiplicité d'épreuves pour pouvoir parvenir à passer de l'autre côté. Vous allez voir que ce passage, cette tentative de passage de l'autre côté est une grande expérience en soi. Et une fois qu'on sera passé, on va vivre encore une autre grande expérience de transition. Donc là, le seuil est effectivement extrêmement agrandi. Il y a une espèce de grossissement, hein, de transformation finalement de la perception des territoires. Là, il y a quelque chose entre le temps, entre la durée et l'espace qui se joue. Et on a ça beaucoup chez Tarkovski. On avait ça déjà dans Solaris, hein, où il y a une inadéquation du temps et de l'espace. On peut peut-être lancer la deuxième partie. Alors, vous avez vu une chose qui est importante à dire, qui est en dehors de la question du son, mais qui est à voir, bien sûr, c'est le nombre de plans. Il y a très peu de plans. J'ai quelque part le nombre, 142 plans dans le film. 142 plans pour 161 minutes de film. Si on regarde à côté Octobre, Eisenstein, pourtant un modèle dans le coin, 3225 plans pour 103 minutes de film. Donc une immense économie qui fait que c'est par le son qu'il va activer et désactiver à l'intérieur d'un même plan. Et on a vu au tout début de cette séquence que finalement, on avait des fois deux, parfois trois scènes différentes sur simplement un panoramique. On est sur la voiture, elle sort, il y a le diesel qui passe, panoramique, on la retrouve de l'autre côté où on retrouve le type en moto, panoramique, on trouve le type qui referme la grille, etc. Tout ça, c'est dans un même plan. C'est-à-dire qu'on active, puis on désactive, puis on réactive, puis on désactive. Et c'est à chaque fois une mise en charge par le son, et à nouveau, on repasse au silence et on réactive. On tient là quelque chose qui est de l'ordre de une approche, enfin, il nous met en immense proximité. Il nous tient dans un souffle. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre, je parlais d'énergétique, mais vraiment de ça, de tenir, de maintenir les énergies. C'est complètement l'inverse de tous les films d'action, hein, qui sont actuellement construits, qui, eux, travaillent avec un son par plan et des plans extrêmement courts et où on est tout le temps tenu, effectivement, comme ça, très fort, mais par le stress. Là, on n'est jamais dans le stress. On est dans une espèce de suspens, d'interrogation, mais on rentre de plus en plus. Et plus il retire de son, et plus on pénètre le film. Alors, il y a tout ce passage de la traversée, et on arrive à nouveau dans les abris. Alors, avant aussi, il y a ce passage dans une espèce de friche, hein, de maison, d'usine détruite. Et là, qu'est-ce que l'on trouve finalement ? La réverbération des espaces. Et la réverbération des espaces, c'est à la fois, évidemment, la caverne, hein, puis consécutivement l'église, mais c'est d'abord la caverne, c'est quelque chose d'extrêmement archaïque, hein, et que l'on va retrouver tout du long. On va retrouver sans cesse cette construction des espaces avec le sonore. Cet espace réverbérant, on va le retrouver une fois le poste frontière passé, même en extérieur. Je ne sais pas si vous avez vu ce plan en travelling latéral où on voit le type qui tombe parce qu'une balle passe et un autre prend le relais, avance. On est sur un plan extérieur et on a toute la réverbération d'une intériorité. On est comme si on était dans la caverne. Il y a là quelque chose qui nous fait rentrer en profondeur. Et ce passage, enfin, c'est la pénétration de l'espace intérieur aussi. Enfin, il y a tout un, pour faire une psychanalyse du film, mais il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'un franchissement, d'une difficulté de franchissement, de rentrer en intériorité. Puis, on a ce démarrage de la drésine qui part sur les rails. Et là, tout est pris de dos. Les personnages sont pris de dos. On est très proche d'eux. On a un rouling qui est en fait une boucle. Et là, c'est vraiment... tout ça, c'est le retour de l'école schaefferienne. Hein, c'est la boucle, c'est l'histoire du sillon fermé. mais elle se dégrade, en fait, elle est fondue avec une autre, puis une troisième boucle qui, peu à peu, partent en réverbération, en écho, en fait. On a des échos successifs et qui diminuent en intensité. Et là encore, nous font passer dans une subjectivité. On part d'une objectivité du travelling, du ruling, quelque chose qui est extrêmement ancré sur les rails, qui est très matériel. Et puis, on part dans quelque chose d'extrêmement dématérialisé, très, 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 très allégé. Voilà. Jusqu'à cette arrivée dans la couleur, dans l'image colorée et le silence. Et là, il nous garde un plan de silence très long. Et on est dans le silence pendant un très long temps, mais vraiment le silence. Donc il y a quelque chose qui nous aspire, enfin, jusqu'à l'évacuation totale. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que normalement, à la couleur s'associe le bruit, la vie, l'intensité, la richesse, donc du son. Et au noir et blanc, ça serait plutôt la nuit, ça serait plutôt le calme, etc. Et là, il y a une espèce de renversement. Et on va avoir dans toute cette partie qui est en couleur, quelque chose qui est encore dans un silence encore plus profond, dans une évacuation encore plus grande des éléments sonores qui viennent habiter. Très, très loin, on entend au loin encore les trains, mais à peine, comme ça, à peine souligné. Et puis, quelque chose qui sort, ce cri d'animal, de chien, que l'on verra après, plus tard, qui va suivre toute cette scène dans ce monde-là, puis que l'on retrouvera à leur retour dans l'autre monde. Il rentrera avec eux comme espèce de signe, comme ça, témoin. Et cette voix d'animal, ce cri d'animal est réverbéré. C'est-à-dire qu'alors qu'on est en extériorité, alors qu'on est dans un plein air où justement il n'y a pas de réverbération, puisqu'on est censé être... s'il y a des réverbérations en extérieur, c'est celles qui sont les échos des arbres ou les échos de choses comme ça. Mais là, on est vraiment à nouveau dans quelque chose qui est de l'ordre d'un monde encore de l'intérieur. Il y a là... une immense maîtrise de la quantité, des dosages, des matières, des proximités. On a aussi les respirations. Je vous ai parlé tout à l'heure des respirations. On est, même si les voix sont replacées à l'échelle du plan, même si elles sont proches, elles sont un peu reculées, on a les respirations qui, elles, sont très, très proches tout le temps. On est tout le temps en allaitement avec eux. Donc il y a là quelque chose qui se fait avec nous, comme si on était dans la proximité énorme, dans une intimité de leur corps. Il nous fait passer avec eux et il nous fait vivre. Voilà. Et c'est pas de l'ordre du stress, hein, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un accompagnement. Il nous fait les accompagner. De l'autre côté, nous fait passer avec eux. Et vous voyez ce temps de passage qui est une espèce d'épreuve, enfin pour aller de l'autre côté. Et alors là arrive la musique. Et cette musique qui finalement est non narrative. Alors, c'est Artemiev qui fait de la musique de Tarkovsky depuis Solaris. Donc il l'a fait sur trois films. Et alors voilà ce qu'il dit. Que je vous donne de la question musicale. Tarkovsky dit « J'aime me servir de la musique comme un refrain poétique. » Donc effectivement, on va avoir pendant surtout le film quelque chose qui est de l'ordre d'un mood non narratif. Il n'y a pas de mélodie, il y a quelque chose qui est une sorte de porteuse. Artemiev a beaucoup influencé Lynch. Et Lynch s'est inspiré justement des choses que Artemiev fait dans Solaris. Dès le début d'ailleurs. Il dit aussi, la musique électronique, parce qu'effectivement on est là dans quelque chose qui est de cet ordre-là, doit être débarrassée de toutes ses origines de laboratoire pour pouvoir être perçue comme une sonorité organique du monde. être comme une respiration. Et là encore, alors on voit à quel point on rentre dans l'organicité, enfin toujours. C'est ramener à une seule chose. Voilà, donc c'est 72, Solaris. Celui-ci, c'est 79. Alors, il parle aussi d'une chose qui est importante, c'est que, justement, par rapport à cette question de nombre de plans, la restriction du nombre de plans, c'est pour aller d'une part dans une plus grande poétique, on pourrait dire, mais c'est alors aussi parce qu'il dit finalement le rythme du cinéma, ça n'est pas le montage, mais c'est le rythme interne au plan. C'est-à-dire c'est à l'intérieur de chaque plan qu'il faut en comprendre le rythme et ensuite qu'il faut les associer. Et que toute l'énergie et toute la construction des densités se fait dans le plan. Il dit le maître tout-puissant de l'image cinématographique est le rythme qui exprime le flux du temps à l'intérieur du plan. Ça, c'est dans son ouvrage qui s'appelle Le temps scellé. Tous ces extraits sont de cet ouvrage, Le temps scellé. Ma conviction profonde est que l'élément fondateur du cinéma est le rythme et non le montage, comme on a tendance à le croire. Voilà. Donc on va passer à la suite. On va continuer notre voyage. On va aller un peu plus loin cette fois-ci. On saute une bonne partie du voyage à l'intérieur de cette zone et on va arriver à la découverte du tunnel dans lequel il s'engouffre. Et là, on va voir comment le son travaille à l'intérieur du tunnel avec les réverbérations et les échos. Vous allez voir qu'il utilise des échos simples, on a juste une répétition par moment, et dans le même lieu, dans le même espace, on a, selon les personnages et selon les moments, soit de la réverbération sur leur déplacement ou sur leur voix, soit il n'y en a pas. Il y a quelque chose là qui nous fait basculer dans un monde où les logiques du temps et les logiques de représentation ne sont plus les règles normales. Il y a là quelque chose qui n'est pas, c'est pas du cinéma fantastique. On n'est pas, et ça n'est pas non plus de la science-fiction. C'est quelque chose qui, par le sonore finalement, matérialise une sorte de dérèglement. Et la matérialisation se fait avec l'immatérialité du son, ce qui est très étrange, paradoxal.
Мерзость вынешь из души, жрут мерзость. Они же все поголовно грамотны.
Voilà. Alors, là, c'est... on rentre dans la profondeur. Alors, les eaux. On a énormément d'eau dans Stalker, tout du long. Des eaux ruisselantes, tous les états de l'eau, d'ailleurs. Il y a un torrent énorme un peu plus loin. Les mares, les écoulements, les gouttes, etc. Et puis, par les écoulements, on a de l'intériorité sur les extériorités. Là, on n'a été qu'en intériorité, mais souvent, on se trouve en extérieur et il y a une persistance de l'existence de la caverne à côté par des écoulements, ça goutte autour. Il y a quelque chose qui nous dit la proximité de cet espace intérieur, cet espace vers l'éternité, quoi. Parce que c'est ça la caverne, hein. C'est quelque chose où la voix, lorsqu'elle est produite, ou les sons, lorsqu'ils sont produits, se prolongent vers l'éternité, au-delà de l'endroit où normalement la voie peut aller. Il y a là, voilà, c'est pas un hasard si les églises se sont faites dans des lieux et ont maintenu justement cette acoustique qui prolonge la voie, c'est parce qu'il y a quelque chose au-delà de la nature qui se produit, qui nous fait exister, qui prolonge notre existence, voilà, au-delà. Là, dans la fin de cette séquence, il commence à parler et il s'adresse à nous directement. Il y a tout de suite une adresse au spectateur. Vous voyez que là encore, les plans sont rares. Il y a très peu de... Les plans sont très longs. Hein, et les scènes ont le temps de se dérouler. Alors, la partie qu'on va voir maintenant, ça va être... La partie de la fin, donc là j'en saute encore une partie, c'est quand même un film très long. On s'était dit avec Catherine qu'on ne ferait pas plus d'une heure de projection à chaque fois. La dernière fois, c'était le film en entier, il faisait une heure. Là, celui-là, il est malheureusement trop long pour pouvoir le voir en une séance. Mais donc, j'ai fait comme ça des prélèvements et là, on va voir la partie de la fin, toute la partie de la fin, qui va se boucler avec le début. Et qui va réintroduire, réemployer les éléments que l'on a eus au début. On a comme ça une espèce de cycle, de retour. Alors, tout cela est censé se passer en une journée. On est vraiment dans la durée théâtrale. Il y a d'ailleurs sans cesse, vers la fin, là, juste dans cette partie que j'enlève, des situations extrêmement théâtrales. Extrêmement. Mais d'ailleurs, là, avec les oiseaux, on était dans quelque chose qui est de l'ordre d'un dispositif scénographique théâtral. Quoi. À chaque fois, il y a quelque chose qui est fixé, qui est mis en place, et il se passe une scène dedans. Et dans la scène d'après, on est comme ça, avec les personnages assis, et on a une espèce de travelling arrière, et on voit une sorte de cadre de scène. Ils sont là, dans cette scène théâtrale. On va donc revenir au café d'où ils sont partis le matin et cette fois-ci retrouver la fille. Et la fille, c'est une sorte de lieu de relais. Cette fille qui ne peut pas marcher. Il commence à nous la donner avec une sorte de miracle. Elle avance. Le premier plan qu'on a sur elle en couleur, elle avance. Et après, on comprendra comment tout ça se passe. On a un retour avec les mêmes éléments, avec les verres qui se déplacent sur la table, cette fois-ci encore, mais là, plus par le train, mais par le regard de l'enfant. On a comme ça une espèce de refermeture d'une béance qu'on a ouverte, qui nous a mené à nulle part, puisque lorsqu'ils étaient, alors on n'a pas vu cette scène, dans la chambre des désirs, le scientifique n'a pas déclenché la bombe à hydrogène qu'il comptait déclencher dans cet espace pour détruire définitivement le monde. Et voilà, abandonne cette idée. Donc, tout se referme comme ça, dans une chose ouverte, une quête qui ne trouve pas sa réponse, si ce n'est qu'elle continue de poser son interrogation. On regarde cette dernière partie.
Ладно.
Voilà. On termine avec la 9e de Beethoven. On a quatre séquences comme ça avec le train et des musiques, le boléro de Ravel et puis un Wagner, Tannhäuser, l'ouverture de Tannhäuser, je crois, comme ça dans comme ça, mêlés au train. Des hymnes. Donc, en fait, ça c'est... Je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier film avant qu'il quitte la Russie. En fait, après, il fera Nostalgia et Le Sacrifice. Nostalgia en Italie et Le Sacrifice en Suède. Et voilà. Et, donc, il a très peu tourné en Russie. Il avait pas mal de soucis. Il a, c'est entre 61... Et 84, il a fait 5 films. L'enfance d'Ivan, primé à Venise en 62, André Roublev, Cannes en 69, Solaris, prix du jury à Cannes en 72, donc Stalker, prix spécial du jury œcuménique à Cannes en 82, et Le Miroir. Voilà. Et il est mort à Paris en 86. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir par rapport aux voix, c'est l'évacuation des espaces. Curieusement, la réverbération est effectivement la matérialisation de l'acoustique d'un espace. Et lorsque l'on est, par exemple, dans l'appartement, les voix existent sans espace. Elles sont là comme si elles étaient... C'est de la voix studio. Les espaces de vie ne sont pas mis en existence. Sauf à la fin, dans ce passage où la femme parle à la caméra, nous parle directement, où là, on a une petite acoustique comme ça qui l'accompagne légère. Mais sinon, c'est tout le temps une évacuation. Donc, finalement, les acoustiques, les réverbérations arrivent comme une matérialité en soi, comme une espèce d'objet... qui parle, qui a son propre sens, qui a sa propre existence indépendante, comme si elle n'était même pas ancrée avec les espaces. Et on a vu à quel point il arrive à les retirer ou les mettre. Alors au début, on se dit, bon, il y a une règle, quand il passe sous les trous de lumière, c'est la réverbération. Puis après, très vite, on se rend compte que les autres, non, ça ne marche pas, et puis que plus rien ne marche, quoi. Et pareil pour les échos, on a des échos, répétition de la voix, etc. Voilà. Donc, voilà, c'est la fabrication d'un univers simplement avec le traitement du son. Et il faut se dire que cela, lorsqu'on regarde ordinairement le film et qu'on est un quidam qui ne s'intéresse pas forcément au son, personne ne l'entend, bien évidemment. Ça n'apparaît pas, parce que le son est toujours contingent d'une situation et le son n'apparaît pas en tant que tel. C'est-à-dire, le son n'est jamais spectaculaire. Sauf qu'il fait le travail derrière, discrètement, et que c'est lui finalement qui produit la sensation. Là, en l'occurrence, le sens, les sens et la sensation. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant dans ce cinéma, finalement, c'est de voir, dans la chronologie de ces trois films que je vous ai présentés, c'est de voir la place du sonore. À chaque fois, elle travaille de manière différente et toujours avec une force aussi grande. Enfin, et toujours aussi avec cette question de l'évacuation des matérialités, des matières, des densités, des flux, hein. Avec Jacques Tati dans une très grande épure, avec Van der Keuken là dans des épaisseurs. Alors là, vraiment, avec ce travail sur le bruit de fond qui remonte de manière très puissante, etc. Et puis là, avec une grande évacuation. Alors là, du monde, hein, c'est ça aussi que ce silence produit. C'est que, aussi bien dans le premier espace, dans l'espace avant la frontière, on est loin de tout, finalement, parce que là aussi, les trains sont éloignés. Donc, il y a une espèce d'immense solitude qui est créée par ce silence. Et aussi bien dans la zone, on a cette sensation d'un report, enfin, de l'horizon sonore, enfin, qui est vraiment extrêmement déporté au loin. Donc, il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une... d'une scénographie, hein, des espaces de vie qui est marqué simplement par le son. Voilà. Peut-être quelques questions. Oui.
Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu deux versions du film à plusieurs années d'écart, si j'ai bien compris.
Non, je crois qu'il a repris tout de suite.
Ah, d'accord. Est-ce qu'il a indiqué justement l'écart? Est-ce qu'il a mentionné peut-être une différence entre les deux versions? S'il avait travaillé le son différemment ou l'espace différemment? Il a tout refait pareil?
Ah non, mais le premier film n'a même pas vu le jour puisqu'il est resté dans les bobines. Ils ont tourné et ensuite ils ont envoyé, c'était avec la pellicule Kodak, nouvelle, etc. Donc ils ont, après le tournage, envoyé les bobines au labo et ça n'a pas été développé. Et donc les bobines sont restées 17 jours comme ça sans être développées et évidemment la pellicule était morte. Donc il était furieux mais il ne pouvait rien faire. Donc il a tout retourné.
Mais à l'identique.
Alors, je ne sais pas si c'est à l'identique. Ça, peut-être qu'il y a des documents là-dessus. Je pense qu'on ne refait jamais de toute façon à l'identique. Je pense que quand on refait quelque chose, on le refait au bénéfice de ce qu'on a fait et en même temps au détriment de ce qu'on a su faire. En tous les cas, le son n'est pas travaillé, bien sûr, puisque le son là est entièrement post-produit. Il n'y a rien en direct. Il y avait un ingénieur du son sur le terrain, mais qui faisait que des sons seuls et qui travaillait sa matière, qui trouvait sa matière. Mais rien n'a été fait en son direct. Là, tout est complètement reconstruit de A à Z.
Bonsoir. J'ai une question par rapport justement à ces prises de son sur le terrain. J'ai l'impression que parfois c'est mélangé avec des corps sonores étrangers. J'ai cru entendre un 4 de piano quand il a jeté la pierre.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a un travail comme ça de post-production avec comme un morphing sonore, je ne sais pas. En tout cas, on a l'impression de passer d'un univers à un autre.
Ouais.
Y a eu ça, donc c'est ça.
Il y a effectivement, quand il jette la pierre au fond du puits, un piano qui résonne au fond. Ouais. Mais morphing sonore, on en est loin, mais en même temps, l'idée est là, bien sûr. C'est exactement dans le sens de ce que je lisais au début de la séance. L'idée, c'est de ramener avec des éléments sonores une matérialité annexe du monde. C'est de faire coexister, alors là dans le synchronisme, mais des matérialités qui ne correspondent pas à ce que l'on voit, qui sont dans un certain écart et qui effectivement produisent de l'imaginaire. Mais je crois qu'il a toujours eu cette idée de la pauvreté, hein, d'appauvrir les choses. Et pareil pour la couleur. Hein. Il a des grands textes là-dessus où il dit qu'il ne faut pas employer la couleur, ou le moins possible. Ou alors, quand on emploie la couleur, la décharger de ses rapports différentiels, de ses puissances, pour l'adoucir. Quoi. Et là, il passe souvent au sépia, hein, et puis au noir et blanc. Et il dit bien sûr que le noir et blanc nous emmène beaucoup plus loin dans l'imaginaire, bien sûr.
Et donc, je voulais savoir aussi dans quelle mesure ce travail comme un bourdon qu'on pourrait entendre avec comme des notes a été travaillé aussi avec le compositeur. Parce qu'en fait, il y a assez peu de musique, c'est plus des sons électroniques. Et quel rapport il avait avec son compositeur attitré qui avait travaillé sur Solaris aussi?
Lui aussi, je vous ai indiqué deux, trois choses. C'est qu'il lui disait que la musique devait s'apparenter le plus possible au dispositif sonore. c'est-à-dire rentrer complètement dans le son du film et ne pas être un objet hétérogène, étranger, une chose posée comme ça qui prendrait son propre rôle et sa propre indépendance ou qui deviendrait un commentaire. Son idée, c'est effectivement d'homogénéiser, hein, d'avoir une seule chose. Autant dans l'image que dans le jeu, que dans les déplacements, dans les mouvements de caméra. Voilà, il y a une espèce de resserrement de la diversité pour retrouver une chose, un langage, une forme. Et un poème, en fait, on est là-dedans, quoi, dans une très grande unité. Mais avec le son, en fait, c'est jamais compliqué. Il faut dire qu'à l'époque, les réverbérations, c'était des ressorts. Hein, là, toutes les réverbérations sont à ressorts. Donc c'est des outils assez archaïques, hein, mais c'est la qualité justement de cet archaïsme. C'est ça qui est intéressant à considérer, c'est que le dispositif technologique est extrêmement pauvre. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est dans cette pauvreté qu'effectivement le rêve a prise. Dans de la perte de il s'agit de dépréciser, quoi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une destruction, d'une perte du contour, quoi, hein. C'est l'inverse du design sonore, ce terme, ce concept de design sonore qui est une horreur, quoi, qui ramène le son sous le regard, sous la dominance de l'œil. Design, c'est dessiner. On ne peut pas dessiner le son. Ça ne se dessine pas, le son. Il n'y a pas de contour. Le son, c'est quelque chose, c'est des flux, c'est une immatérialité. C'est un objet qui est intenable. Donc, c'est pas simplement un abus de langage que de parler de design sonore. C'est vraiment faire prendre aux gens les vessies pour des lanternes, quoi. C'est un abus de pouvoir, quoi. Je pense que là justement on voit que c'est l'anti-design sonore, quoi. On est complètement à l'inverse, quoi. On est dans quelque chose qui est il pourrait ne pas être synchrone sur les voix, sur les dialogues, quoi. Ça n'aurait aucune importance, quoi. Mais toujours la même chose, dès que le son disparaît, on rentre dans les images, quoi. Moins il y a de son, plus on s'immerge et plus on pénètre l'image. Ça, c'est une grande leçon, quoi, toujours. Plus il y a de son, moins on peut voir. Ça, c'est... faut dire ça au monteur son, pour éviter qu'il s'épuise.
Juste, je voulais savoir ce que tu pensais de la nécessité justement de faire advenir quand même la musique à l'intérieur du son, parce qu'il aurait finalement pu s'en passer.
Oui, je pense qu'il aurait pu s'en passer. Il dit toujours ça, d'ailleurs. Il dit qu'il n'en a pas besoin. Mais en même temps, il dit c'est des pauses. C'est des moments de relâche. C'est des moments où il détend. Et je pense que ça fait partie aussi de l'énergétique du film. Là, la musique arrive 7 fois dans le film. C'est très peu, finalement. Et c'est toujours la même forme. C'est toujours la même musique. Et c'est simplement une façon de... Et en fait, elle arrive à des moments... Ou au contraire, elle ne devrait pas arriver. Par exemple, à l'endroit où on a les dunes, on se dit, mais on est dans un monde incroyable. Et là, crac, la musique arrive. Et donc, on se pose dans cet espace, dans ce nouvel espace, alors qu'on devrait être à nouveau relancé ailleurs. Non, la musique nous calme, nous fait reprendre confiance avec ce lieu pour repartir. Et je pense qu'il y a là une économie. Alors, pourquoi ? Parce que la musique, c'est le lieu justement de la reconnaissance, et là, en l'occurrence, donc de la sécurité. Dès qu'il y a musique, il y a quelque chose de l'ordre de la répétition, du connu, du retour, hein, donc de quelque chose qui, finalement, est un lieu agréable à habiter. C'est un lieu où il se passera rien, puisque ça chante. Et, et en plus, c'est merveilleux. Enfin, quand on voit la totalité du film, vraiment sur toute sa longueur, ces pauses musicales sont très étonnantes, quoi. C'est comme s'il nous ménageait, il ménageait le spectateur. Faut dire qu'il nous conduit très très proche, enfin très près de ces personnages. Et à chaque fois, chacun. Enfin là, on n'a pas vu beaucoup de dialogues parce que j'ai sauté un peu les passages de dialogue. D'ailleurs, ce qui est très intéressant de voir, c'est que les dialogues sont regroupés et qu'il y a des très grands passages où il n'y a plus rien. Très peu de dialogues. On part comme ça à l'aventure, hein, on part dans l'exploration. Et puis à nouveau, ça reparle et les choses, les grandes questions métaphysiques se posent, quoi. Je voudrais regarder comment il travaille dans les autres films avec la musique. Mais je sais qu'avec lui, avec Artemiev, il a travaillé sur ces trois films et que pour lui, c'était important. Enfin, il avait là trouvé quelque chose. Parce qu'il n'aime pas la musique instrumentale avec des instruments réels, hein, des instruments acoustiques normaux. Il aime la musique électroacoustique, mais à condition qu'on perde, comme il dit, le laboratoire. Parce que on se place à un endroit qui est justement proche du côté d'un sonore qui n'est pas attribuable à l'instrument, quoi, qui devient plus abstrait.
Je comprends pas, dans l'exemple de Beethoven, c'est pas de la musique électronique.
Non, alors ça c'est très, très étonnant ce truc. Là c'est vraiment des choses qui sont... il va puiser dans l'histoire de la musique les grandes figures, quoi, des grandes figures, quoi. On a d'abord la Marseillaise, donc on y va, la liberté. Bon, faut pas oublier que c'est un film qui fait en Russie, bon, c'est quand même un film qui est en lutte contre. Enfin, il ramène toute la métaphysique, toute la croyance, tout ça. Il ramène l'Église, enfin, dans ce régime, enfin, qui est très rigide avec le cinéma. Donc il ramène les signes de liberté, hein, et on a Wagner ensuite avec des sons de Stuka, d'avion, hein, c'est au moment où se tourne Apocalypse Now, ce film est exactement contemporain d'Apocalypse Now, donc on ne sait pas s'il a vu ou s'il sait déjà ce qui se passe dans Apocalypse Now avec les hélicoptères et Wagner, mais là on a ça, et puis ensuite on a le Boléro de Ravel, qui est là aussi une espèce de chose internationale. Hein. Boléro de Ravel, c'est l'œuvre la plus écoutée dans le monde. C'est un truc absolument incroyable. Et puis, ensuite, on a, je crois qu'il y en a quatre. On a ça, l'ode à la joie, qui est maintenant l'hymne européen, mais qui est la 9e de Beethoven. Donc là, c'est des choses qui sont... Enfin, du pur esprit, quoi. Du pur esprit. On n'est plus du tout dans l'instrument. On n'est plus. C'est des signes, c'est des icônes. Voilà, on est dans les icônes. C'est très fort, d'ailleurs, d'arriver à glisser ça. Et c'est bizarre parce que dans la première version, enfin, à l'époque de la cassette VHS. On n'avait pas une définition du signal aussi bonne qu'avec les DVD. Alors, moi, je me souviens que la Marseillaise, par exemple, au début, on ne l'entendait pas. Et c'est après, quand j'ai récupéré le DVD, que je me suis rendu compte de ça, quoi. Alors, pour parler de ça, ce qui est absolument paradoxal et affolant et terrifiant et qui m'a tué, c'est que la version DVD qu'on achète dans le commerce... Lorsqu'on la charge, elle passe directement sur la version 5+1, hein, pour multicanal, pour avoir des enceintes tout autour. Cette version 5+1 a eu tout un tas de sons qui ont été rajoutés, des petits grillons, des petites ambiances, des trucs pour faire, pour animer les haut-parleurs qui se trouvent derrière le spectateur. Ils ont carrément rajouté le ketchup partout. C'est absolument hallucinant, quoi. On se dit, mais comment on peut, sur une telle œuvre, vous voyez où on en est arrivé, quoi. Là, il y a un truc, on parlait de la colorisation des films, mais c'est rien à côté de ça, quoi. Là, carrément, on détruit tout. Et pire que tout, c'est que lorsqu'on charge le DVD, il passe d'emblée sur la version 5+1. C'est-à-dire, si on ne décide pas d'aller sur la version mono, de rentrer dans un menu et d'aller sur la version mono d'origine, on se paye ce sonore qui est rajouté, espèce de chose. Donc là, il y a vraiment là, il y a un scandale à faire là-dessus. Il y a un article à faire, à pondre. Vraiment, il faut hurler contre ça, quoi. Il faut en finir avec le 5+1 de Monsieur Dolby. Et oui, bien sûr, il y a des haut-parleurs, il faut bien mettre quelque chose dedans. Allons-y. Voilà, on s'arrête là. Donc à la prochaine séance. Merci.